Juste revenir sur une prédication que j'ai faite il y a 2-3 semaines. Et il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, si vous n'avez pas remarqué, tant mieux, j'ai laissé sous-entendre que peut-être qu'on pouvait faire quelque chose sans Dieu. Alors je voulais simplement dire que je ne crois pas ça, je crois vraiment que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et je vous explique comment, tout d'un coup, dans ce que je suis vraiment convaincu qu'on a besoin de Dieu pour tout faire, et je vous explique juste comment, tout d'un coup, il y a quelques mots qui m'ont échappé, qui ont été un peu plus loin que ce que je voulais dire, et des choses que je ne croyais pas. Et je crois que c'est une technique que Satan il utilise pour essayer un peu de nous dévier de notre objectif. Moi, j'aime Dieu. Je suis quelqu'un vraiment, je suis passionné par Dieu, je suis passionné par Jésus-Christ, et je me donne à fond pour lui. Et quand on se donne à fond pour Dieu, quand on l'aime, ben Dieu il nous utilise pour faire des choses. Puis des fois, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais en fait, je fais quand même bien mon travail. Hein. » Et je contribue quand même à quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Puis on se dit « Mais en fait, peut-être, et puis on va un tout petit peu plus loin. » Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Puis on se dit « Mais en fait, je peux quand même faire quelque chose sans Dieu. » pendant la prédication, je n'avais pas du tout prévu que c'est jusque-là. Et tout d'un coup, pouf, je suis allé un tout petit peu plus loin. Et je ne le crois pas du tout. Je crois que dans notre travail pour Dieu, on est un petit peu comme un enfant qui aide son papa à monter un meuble Ikea. Je ne sais pas si vous avez déjà monté un meuble Ikea avec un petit enfant de 2 ou 3 ans, et puis il a absolument envie de vous aider. Alors, vous ne gagnez rien du tout quand il vous aide, ça vous prend juste un petit peu plus de temps et vous demande un petit peu de patience, voire beaucoup de patience. Et vous êtes en train de monter votre fauteuil Ikea, heureusement c'est pas trop compliqué, vous n'allez pas vous tromper dans les pièces. Le petit enfant prend une vis, puis vous dites, faut mettre dans ce trou-là. Puis alors, il essaye tant bien que mal de mettre dans le trou, puis finalement il y arrive, et puis voilà, après vous vissez, puis vous montez votre meuble, puis à la fin, le petit enfant, il est super content, il a l'impression d'avoir accompli un travail gigantesque. Et je crois que dans notre travail, c'est un petit peu comme ça, dans notre travail avec Dieu, on est un petit peu comme ce petit enfant, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de super, puis en fait, quand on réfléchit un petit peu, quand on regarde, en fait, c'est tout notre papa qui a fait. Alors voilà, je voulais réaffirmer ça, pas que, voilà, puisque ma bouche est allée un petit peu plus loin que ce que je voulais. Et c'est pas du tout de ça que je vais parler ce matin. Quoique, puisque je vais quand même parler un petit peu de la famille. Comment ça se passe dans vos familles? Comment ça s'est passé dans vos familles? Et plus précisément, comment ça se passe avec vos enfants? Et vous savez, quand on vit 24 heures sur 24, quand on avance dans la vie, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent remplir la vie de famille. Et on va se mettre un petit moment à la place d'un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas grave. Repensez à quand vous étiez enfant et que vous arriviez, que vous étiez à la maison, puis vous avez eu un petit moment tout seul parce que les parents étaient sortis faire des courses ou étaient au travail. Et puis, il y a certaines choses qu'on a le droit de faire et puis il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire à la maison. Puis vous avez fait une bêtise. Alors, quelle bêtise est-ce que vous avez fait ? Pas forcément quelque chose de très grave. Votre maman vous avait dit que vous aviez le droit à un demi-paquet de biscuits pour les 4 heures. Et vous avez mangé tout le paquet de biscuits. Et puis, à l'arrivée à la fin du paquet de biscuits, vous dites, mais ma maman, elle va rentrer dans une demi-heure. Il faut que je masque l'épreuve. Hein, il faut qu'on cache tout ça. Alors, vous prenez l'emballage, vous le mettez à la poubelle, puis vous mettez encore 2-3 choses dessus, histoire qu'elle ne puisse pas retrouver l'emballage du papier de biscuit. Et puis, la seule fois que ça vous arrive dans votre vie, vous nettoyez la table, vous nettoyez toutes les miettes pour pas qu'elle vous pose de questions si les 4 heures se sont bien passées. Vous rangez votre verre, tout est nickel, et maman rentre à la maison. Et là, vous êtes tout tranquille, en train de jouer dans votre chambre. « Bonjour maman, ça me fait plaisir de te revoir. » Puis la maman toute contente, « Mais salut, ça s'est bien passé sans moi. Oui, oui, t'as pas fait de bêtises. Non, c'est très bien. » Et puis là, vous avez le cœur qui fait « boum, 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 boum. » Parce que si elle découvre que j'ai mangé tout le paquet de biscuits, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez peur. Il y a une crainte qui est là. Parce que vous savez, vous avez fait une bêtise. si vous vous dites, mais j'espère qu'elle ne va pas le remarquer, je sais qu'elle ne va pas le remarquer. Puis vous savez très bien qu'elle va le remarquer, parce que demain, vous allez de nouveau prendre des 4 heures, elle va ouvrir l'armoire à biscuits, elle va voir qu'il n'y a plus de biscuits. Donc, vous savez qu'elle va le remarquer. Et effectivement, le lendemain arrive. Maman, elle est là cette fois, elle ouvre l'armoire à biscuits pour vous préparer vos 4 heures. Gaston, viens voir par là. Il est où le demi-paquet de biscuits que je t'avais demandé de remettre dans l'armoire? Puis là, il y a le cœur qui bat encore plus fort. Pensez à une petite tension montée dans la famille. Encore une fois, tu ne m'as pas obéi, hein, c'est pas bien, Emma. Aujourd'hui, tu n'auras pas de 4 heures. Je crois que c'est des situations qui nous arrivent dans la famille. Il y a des émotions qui sont là et le petit enfant, il a tout peur de la réaction de sa maman. Et sa maman, elle ne va pas laisser passer la chose parce qu'elle sait que si elle ne dit rien, le lendemain, ce n'est pas un paquet de biscuits qui va y passer, c'est deux paquets de biscuits. Et puis que, bon, il y a aussi des pommes à manger et puis qu'il peut aussi manger un fruit pour les 4 heures. Le but, ce n'est pas de terroriser l'enfant et qu'il ait peur, mais c'est simplement qu'il puisse bien grandir. Mais il y a cette petite tension qu'elle a. Et puis, quand le Gaston il se fait attraper, il dit « Mais oui, effectivement, maman, j'ai mangé tout le paquet de biscuits, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. » Puis la maman est attendrie, elle peut se dire « Ah, ok, ça arrive, c'est pas grave, tu peux prendre une pomme pour les 4 heures. » Puis tout d'un coup, là, il y a une tension qui tombe dans la famille. Parce que le petit enfant, il n'a plus peur, il sait que maintenant... De toute façon, tout a été dévoilé. Et puis, il y a une solution qui a été trouvée. C'est pas trop grave, il se fait un petit peu gronder. Et puis après, ben, sa maman lui donne quand même une pomme. C'est pas les biscuits dont il aurait voulu, mais il va pas avoir faim jusqu'au souper. Autre situation où il y a des émotions dans la famille. Vous vous souvenez quand vous faisiez une bonne note à l'école? En allemand, en plus. Parce qu'en allemand... Vous n'aimiez pas trop apprendre votre vocabulaire et vous aviez toujours des bonnes notes. Mais cette fois-ci, vous êtes dit, mais je vais bien travailler parce que j'ai envie d'avoir de bons résultats, j'ai envie que mes parents ils soient fiers de moi. Puis vous avez travaillé et vous avez un 6 sur 6 ou un 10, quoi. Je ne sais pas si vous aviez des notes jusqu'à 10 ou jusqu'à combien, vous avez la meilleure note en allemand. Alors quand la maîtresse, elle distribue les copies, puis que vous voyez que vous avez 10 sur 10, elle dit, c'est étonnant, c'est bien Gaston, tu as une bonne note aujourd'hui, bravo, félicitations. Puis après, vous vous dépêchez de rentrer à la maison, et puis vous dites, maman, j'ai fait un 10. Puis vous êtes tout content, vous êtes dans la joie, puis vous êtes content, puis la maman, le papa, ils sont fiers de vous, et puis tout le monde est content parce que vous avez eu un bon résultat. Puis il y a toutes sortes d'émotions comme ça qui ponctuent la vie familiale. Et finalement, si on réfléchit un petit peu à notre relation avec nos parents, mais toutes ces émotions-là contribuent à ce qu'on se sente proche de nos parents. Et je sais que dans toutes les familles, ça ne se passe pas forcément toujours bien. J'y reviendrai un petit peu après. Mais prenons là pour le moment le cas d'une famille où une famille normale, hein. Il y a de temps en temps ça part un peu trop fort, de temps en temps nos propos vont un peu plus loin, nos gestes vont un peu plus loin que ce qu'il faudrait, mais une famille où ça se passe bien, et puis on voit que à la fois le moment où il y a une bêtise qui est faite, une petite crainte, puis en fait on voit que nos parents savent comment gérer la situation. Ou bien quand on est tout content, puis qu'on a fait quelque chose de bien, puis que nos parents ils nous encouragent pour qu'on continue à faire de bonnes choses. Mais toutes ces émotions-là contribue à ce qu'on se sente proche de nos parents, que nous nous sentons proches les uns des autres. Imaginez une famille où il n'y aurait pas d'émotion. Ce serait bizarre. Hein? Toujours le même ton de voix, jamais de rire, jamais de pleurs. Est-ce que les gens se sentiraient proches les uns des autres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Puis aussi quand on tombe malade, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez des moments où vous étiez malade quand vous étiez enfant. Et puis, il y avait d'un côté, vous aviez de la fièvre, vous étiez pas bien. Puis d'un autre côté, il y avait un truc super chouette, c'est que vos parents, ils vous cocolaient. Hein, ils venaient vers vous dans le lit pour voir si vous étiez bien. Ils venaient remonter la couverture, vous apporter à boire. Ils venaient vous apporter du réconfort. Et on voit que dans la famille, on peut compter les uns sur les autres et c'est précieux. Je vais lire un texte en Romains, chapitre 8. Verset 9 à 17. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» On pourrait dire vers lequel nous crions « Papa !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous quand nous accueillons Christ rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quelque chose qui se passe quand on reconnaît qu'il y a seulement Christ qui peut venir nous délivrer de notre péché. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient, puis il y a une conviction qui naît en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et on peut crier « Abba, Père !» Et finalement, notre situation avec Dieu, notre relation avec Dieu, notre manière de vivre avec Dieu n'est pas tellement différente de ce qu'on vit avec nos parents. Là, toujours, je parle d'une famille qui fonctionne plus ou moins bien. Je reviendrai après, parce que je sais que ce n'est pas toujours aussi simple que ça dans les familles. Mais on veut être un bon enfant pour notre Père. On veut que notre Père, on veut lui plaire. Et puis, on n'y arrive pas toujours. Des fois, il y a le paquet de biscuits qui est là. Puis là aussi, on ne se retient pas et puis on écoute notre estomac plutôt que de suivre ce que Dieu nous a demandé. Alors, vous comprenez bien que l'image du paquet de biscuits, c'est d'autres choses dans notre vie. Ça peut être des choses graves, enfin, que notre société considère comme problématiques, alcool, drogue, et j'en passe. Ça peut être des choses que notre société ne condamne pas spécialement. Soif de l'argent, cupidité, adultère. Mais on se rend compte, quand on le fait, on a un peu l'impression que on est chez nous, puis que notre papa, il est sorti. Et puis qu'on peut faire un peu ce qu'on veut parce que il n'est pas là. Et puis, on en profite de son absence, ou de sa supposée absence, parce que nous savons que Dieu est toujours présent, mais on en profite pour faire des bêtises. Et puis, des bêtises. Vous savez, il y a des bêtises qu'on fait volontairement, il y a des bêtises qu'on fait involontairement. Il y a le paquet de biscuits qui a été fini, puis il y a le verre qui est tombé de la table et qui s'est cassé. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Et tout d'un coup, notre papa, il fait toc 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 à la porte et il rentre. Puis on a fait exactement la même chose qu'on aurait fait avec nos parents. On a masqué les preuves. Ah, mais oui, Seigneur, tu sais, non, je ne suis pas vraiment cupide, je me disais simplement que si j'avais plus d'argent, je pourrais en donner plus aux pauvres. Mais non, Seigneur, je n'ai pas convoité la maison de mon voisin. Je me suis simplement dit que si j'avais une belle maison, je pourrais être plus généreux dans mon accueil. Et puis on se place devant Dieu avec toutes nos bêtises, tous nos péchés, qu'on sait pertinemment être mauvais, et on essaye de magouiller. Et puis, au-dedans de nous, on est comme ça, on a les chocottes. Parce qu'on se dit, mais je suis vraiment un sale type. Dieu, il est tellement bon avec moi, il est tellement juste, il est tellement saint, il prend toujours soin de moi. Et puis moi, j'agis comme un hypocrite, comme une pourriture. J'espère qu'il ne va pas le remarquer. Et des fois, Dieu, il patiente. Il fait comme s'il n'avait rien vu, comme s'il ne savait rien. Mais pendant tout le temps, il patiente et puis il attend simplement qu'on vienne avouer devant lui, puis qu'on lui dise, mais papa, j'ai cassé un verre. Mais pendant ce temps d'attente, on a peur. Et c'est une situation qui est des fois très désagréable, à plus d'un titre. Déjà parce que on n'ose plus tellement entrer dans la présence de Dieu. Et puis parce que plus le temps passe, moins on sait que faire de notre péché. Et puis parce que on a l'impression que la relation avec Dieu est rompue parce qu'on a peur de lui. On essaie de prier le soir dans son lit, on fait une petite prière bien, vite fait. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes amis. Je demande pardon pour tous mes péchés, moult alléluia, amen. Puis on n'ose pas prendre vraiment du temps dans sa présence parce qu'on est confronté à qui on est, à ce qu'on a fait. Il y a la crainte de Dieu qui est là. Et comme j'ai dit tout à l'heure pendant la louange, cette crainte de Dieu est salvifique. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à avoir cette crainte de Dieu. Et avouons simplement nos torts. Comme quand on casse un verre, on va dire à notre papa, à notre maman, j'ai cassé un verre. Puis il va chercher une brosse et ramassoir, il ramasse les briques, il les met à la poubelle. Pas toujours aussi simple. Dans nos vies, on est d'accord. Mais franchement, Dieu, il a créé toute la terre. Il a créé l'univers entier. Il nous a donné le souffle de vie. Nos petites bêtises. Il est capable de les arranger. Il est capable de trouver une solution. Et vous savez, des fois, c'est génial avec les enfants. Peut-être vous vous rappelez de certaines bêtises que vous avez faites quand vous êtes enfant. Et c'est génial, parce qu'il y a des trucs, on a l'impression que c'est une montagne. Puis on n'ose surtout pas en parler à nos parents. Puis on arrive vers nos parents. Ah, mais c'est pas grave! Et hop, ils trouvent la solution, en 2 minutes, l'affaire est réglée. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais. Hein. Et je crois que des fois, avec Dieu, c'est un peu la même chose. On a tellement peur, on n'ose pas s'approcher de lui, on n'ose pas avouer. Et en fait, simplement, si on lui avouait, ce serait réglé en quelques instants. Mais il y a d'autres émotions avec Dieu, il n'y a pas que la peur et la crainte. Il y a aussi la joie. Quand on a fait quelque chose de bien, on s'est dit, mais Seigneur, j'ai envie d'être un bon enfant, j'ai envie de t'honorer. Et puis, vous avez pris le temps d'aller prendre des nouvelles de vos voisins. Vous êtes allé rendre visite à votre frère ou à votre sœur parce que vous savez que ça fait, que c'est pas toujours facile de passer du temps avec lui, mais que la famille, c'est important. Vous avez décidé d'aller vous occuper. Vous avez vu qu'il y avait un nouveau voisin dans le quartier. En plus, il a l'air d'être un étranger. Puis vous dites, mais peut-être c'est pas toujours facile de trouver le bon bureau en Suisse. J'allais lui donner un coup de main, voir s'il sait où demander les informations, si on peut lui montrer où sont les magasins, si on peut lui donner un coup de main pour monter un meuble. Parce que Dieu, il m'a tellement aimé que moi j'ai aussi envie de pouvoir aller aimer les autres. Puis après, vous allez vers Dieu et vous dites, mais Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait? Et Dieu, il se réjouit avec vous, il dit, mais c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, tu as fait quelque chose de bon. Comme quand on rentre à la maison avec une bonne note. Et il se réjouit avec nous et on est dans la joie d'entrer dans sa présence. Et il y a aussi des moments dans la vie où on est blessé. On a perdu un proche, on a été frappé par la maladie, ou que sais-je encore, on a perdu tout notre argent. Il peut y avoir toutes sortes de choses, on est blessé. Et là, Dieu, il va prendre soin de nous, il va se mettre à notre chevet, il va nous cocoler, il va placer les bonnes personnes autour de nous. Et en tant que chrétien, des fois, toutes ces émotions, c'est pas facile. Hein, parce que des fois, on ne sait plus trop sur quelle chaise s'asseoir, on sait plus trop sur quel pied danser. Mais Dieu, il veut notre cœur. Puis un cœur sans émotion, ce n'est pas vraiment un cœur. Et toutes ces émotions, elles contribuent à nous rapprocher de Dieu. Que ce soit la peur quand on a fait une bêtise, que ce soit la joie quand on a fait une bonne action, que ce soit le réconfort quand il vient prendre soin de nous. Ça contribue à nous rendre proches de Dieu. Ça contribue à placer notre confiance en lui. Et des fois, en tant que chrétien, on essaye simplement de repousser toutes ces émotions pour avoir une relation stable avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand il y a quelqu'un qui endurcit son cœur, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Dieu, il veut qu'on ait un cœur vivant, qui bat. Il veut un cœur avec des émotions. Il nous a créés en tant qu'être humain. On n'est pas appelé à juste être des machines, des robots. Il veut une relation passionnée avec nous, une relation d'un père avec ses enfants. Et vous savez pourquoi on peut s'approcher de lui quand on a fait une bêtise sans avoir peur? Imaginez votre fils de 14 ans qui arrive à la maison, pas tout seul, il arrive avec la police, qu'il le ramène à la maison parce qu'il allait piquer la BMW du voisin. Il avait laissé les clés dessus et il l'a envoyé dans un mur. Alors, vous êtes content, il est encore en vie. Mais quel savon il va ramasser pour la BMW qu'il a embouti. Hein, il va avoir sa punition. On ne va pas le laisser passer là. Alors Dieu, c'est clair qu'il va nous corriger pour nous faire avancer, mais on a de la chance, c'est que notre punition, c'est Christ qui l'a portée. Et c'est pour ça que la peur qu'on peut avoir face à Dieu, elle n'est pas mauvaise, mais elle est salvifique, parce qu'elle nous pousse à reconnaître que Christ est mort sur la croix, que notre péché a été brisé, que la mort que nous méritions est devenue la vie, que Christ nous donne une vie en abondance. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu comme vers un père, parce que Dieu, il nous voit à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on ne peut rien faire d'autre que simplement avouer nos torts. Parce que Christ, il a déjà tout fait, ce qu'un bon fils aurait dû faire. Alors nos erreurs, nos bêtises, Christ, il les a déjà portées. Et je vous ai dit que j'allais revenir un petit peu sur une famille qui pouvait être un petit peu dysfonctionnelle. C'est difficile d'entrer dans les détails, mais Dieu, il agit avec nous. Des fois, il a écrit dans la Bible que Dieu reprend ses enfants comme un père qui reprend ses enfants. Et le but de Dieu, c'est de nous faire grandir, c'est de nous faire avancer, qu'on devienne meilleur chaque jour, qu'on s'approche de lui chaque jour, qu'on soit plus proche de lui chaque jour. Et des fois, avec nos parents, ou nous, avec nos enfants, on n'a pas cette attitude-là. On va reprendre nos enfants pour les punir, et simplement pour les punir, parce qu'ils ne se sont pas bien comportés. Pas dans le but que la prochaine fois, ils ne fassent pas la même chose, mais tu as fait une mauvaise action, tu vas payer. Des fois, nos parents ou nous-mêmes, on se laisse emporter. On n'a pas un regard lucide sur la situation pour chercher une solution, mais on se laisse submerger par les émotions. Et au lieu de chercher une solution au problème, on accentue un peu plus le problème par nos paroles, par nos actes, par notre manque de patience, par notre colère. Des fois, on ne se réjouit pas du bon résultat d'un enfant, parce que finalement, on a nos petits problèmes, et puis que ce que font nos enfants, c'est leur problème. Il y a un manque d'amour. Et j'ai à la fois envie de vous rassurer, on n'est pas des parents parfaits, nos parents n'étaient pas parfaits, et envie de vous dire, mais agissez avec amour avec vos enfants. Et sachez qu'avec Dieu, c'est différent. Dieu, il ne s'est jamais submergé par ses émotions. Dieu, il n'est jamais trop préoccupé par ses problèmes pour ne pas prendre soin de nos problèmes. Dieu, il n'a jamais la tête ailleurs au tel point qu'il ne voit pas une belle chose qu'on a fait pour lui. Et quand on va vers lui, on sait qu'on peut avoir toute son attention. Et finalement, quand toutes ces émotions, on les vit avec Dieu, ça nous rapproche de lui. Il y a un théologien qui est déjà décédé il y a quelques dizaines d'années, voire je sais, assez longtemps, qui s'appelle Jonathan Edwards, et sa thèse c'était de dire, mais la vraie religion, ça consiste essentiellement à avoir les bons sentiments envers Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les sentiments, les émotions, c'est ce qui fait fonctionner notre monde. Imaginez un centre de bourse. Je ne sais pas comment ça se passe dans la bourse, mais j'ai vu deux, trois films où il y a les courtiers qui sont tous paniqués, en train de téléphoner au téléphone, soit ils sont en train de pleurer, soit ils sont contents parce qu'ils ont gagné des millions. Imaginez un instant ce centre de bourse sans émotion. Personne a de la joie à gagner de l'argent, personne est en train de convoiter ce que son prochain fait, personne n'a du zèle pour s'enrichir un peu plus, personne n'a de la colère, personne n'a de la haine. Je vous dis, il pourrait mettre la clé sous le paillasson, il n'y a plus rien qui se passerait. Et c'est la même chose dans tous nos domaines d'activité. Si on enlève nos émotions, il n'y a plus grand-chose qui va se passer. Et avec Dieu, quand on est passionné pour Dieu, ben, on avance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous connaissez certainement ce passage après où les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Et ils sont en train de prier, en train d'attendre que Dieu envoie son esprit. Et tout d'un coup, ça y est, il descend. Des langues de feu sur chacun d'entre eux. C'est la Pentecôte, c'est ce dont on se rappelle aujourd'hui et demain. Et alors, ils sortent dans les rues et puis ils vont témoigner de l'amour de Dieu. Ils sont tous bouillants, ils étaient en train de prier, mais ils ne peuvent pas rester ensemble, ils sont obligés de sortir et puis d'aller parler des merveilles de Dieu. Et puis, les Juifs qui étaient là, rassemblés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, la fête des moissons, ils sont étonnés de voir ces gens parler des merveilles de Dieu avec tant de zèle, tant d'enthousiasme, mais dans toutes les langues qui étaient rassemblées à Jérusalem. Et puis, Ensuite, Pierre fait un discours et puis les exhorte à croire en Jésus-Christ. Et ce discours, après ce discours, il est écrit en Actes 2, versets 36 et 37. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» On peut encore lire le verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » 3000 personnes, un discours, 3000 conversions. Ça, ce n'est pas l'effet juste de quelques paroles. C'est parce que l'Esprit, il a touché les cœurs et qu'il y a eu un changement radical. Dieu, il veut toucher nos cœurs. Et quand les cœurs ont été touchés, les gens vont témoigner. Mais pour témoigner, si vous n'avez pas cette relation vivante avec Dieu, si on n'a pas cette relation vivante avec Dieu, cette relation de proximité comme avec un père, avec des émotions, avec des hauts, avec des bas, avec un Dieu à qui on peut tout dire, avec qui on peut tout vivre, de qui va-t-on être témoin ? D'un espèce de Dieu lointain qui tape sur ses enfants ? Un espèce de Dieu qui a créé la terre, mais qui finalement s'en fiche bien pas mal ? D'une religion où il faut s'asseoir sur un banc le dimanche matin ? Alléluia, alléluia ! Mais quand on a été saisi par l'Esprit de Dieu, que notre cœur a été touché, on est bouillant. Et on peut témoigner de la relation qu'on a avec Dieu. Et c'est ça qu'on a appelé à faire. Et quand on vit cette relation d'intimité avec Dieu, ben on va en parler ailleurs. Vous savez pourquoi ? On va courir et puis on va dire « Mon papa, c'est le meilleur !» Vous avez déjà vu des enfants ? Quand il y a le papa qui est en train de faire un match de ping-pong et qu'il a gagné, « Mon papa, c'est le meilleur, allez papa !» Et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. Quand on a été touché par son esprit, que notre cœur est en train de vibrer pour lui, ben notre papa, c'est le meilleur. Il est meilleur que tous les autres et on a envie d'aller le crier partout où on va. Et je vous invite vraiment à accepter d'être touché par le Saint-Esprit et de vivre cette relation de père à fils avec Dieu. Et j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, on commence par quoi ? La bonne ou la mauvaise ? La mauvaise. La mauvaise, c'est que vous ne pouvez rien faire. Hein ? Vous ne pouvez rien faire parce que par nous-mêmes, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Et la bonne nouvelle, ben, c'est que vous ne pouvez rien faire. Mais c'est vachement... il suffit d'accepter, il suffit de dire, mais Seigneur, je reconnais que je ne peux rien faire et je veux vivre cette relation avec toi. Mes craintes, je te les dépose. Mes bêtises, je te les dépose. Et je veux venir sur tes genoux. Je veux venir te voir gagner le match de ping-pong. Je vais aller dire à tous mes copains que t'es le meilleur. Vous avez envie de faire ça ? Alors je vous propose qu'on prie. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre Papa Céleste. Nous te remercions parce que tu es le meilleur, Seigneur. Nous te remercions parce que quand tu marches avec nous, eh bien, il n'y a personne qui peut se dresser contre nous. Nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour manifester ton amour. Parce que notre péché est payé. Parce que la punition que nous aurions dû avoir, parce que nous avons fini le paquet de biscuits, parce que nous avons cassé un verre, eh bien, tu l'as fait porter à Jésus-Christ et tu nous prends sur tes genoux pour nous manifester tout ton amour. Nous te remercions parce qu'avec toi, on peut être vrai. On peut être dans la douleur comme dans la joie. On peut être dans la paix comme dans la tristesse. Et tu nous accueilles toujours tels que nous sommes. Nous te remercions parce que tu ne veux pas que nous soyons des robots. Tu ne veux pas qu'on ait un cœur de pierre, mais tu veux que nous ayons un cœur de chair. Seigneur, viens nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Viens transformer nos cœurs. Et Seigneur, viens nous apprendre à avoir des bonnes notes à l'école. Prépare d'avance pour nous des bonnes actions pour que nous soyons fiers de nous présenter devant toi en disant, mais Seigneur, tu m'as bien appris. Ce que je t'ai vu faire, je l'ai fait. Tu as vu comme je suis en train de grandir avec toi. Seigneur, envoie ton esprit maintenant pour que nous soyons unis à Christ et que nous puissions marcher dans ses pas. Amen.